Les Papous en piste pour un numéro spécial enregistré au studio 105 de la Maison de la Radio. Mariage aux Papous dans la tête. Notre septième et dernier rendez-vous en public de la saison. Alors chacun avait mis ses habits de fête. La salle était belle, joyeuse, complice aux couleurs de l'été avec des hommes en Bermuda et des enfants avec leur papa et leur maman. Comme autant de petits garçons et de demoiselles d'honneur pour notre soirée mariage. Juin, c'est le mois où l'on se marie beaucoup et même souvent. J'en connais, tenez, qui se sont mariés plusieurs fois et toujours au mois de juin. Normal, puisque juin viendrait de Junon, l'épouse de Jupiter, protectrice de la femme et du mariage. Nous avons donc joué au mariage, des gens, des genres, des styles, en prose, en rime, en chanson, abordant même au cours des 3 heures que nous avons passées ensemble le délicat problème de la nuit de noces. Nous étions 13 sur scène pour nous porter bonheur. Avec moi, Jeanne Carillon, Serge Joncourt, Lucas Fournier, Eva Almassy, Jacques Jouet, Patrice Delbourg, Odile Conseil, Jacques Vallée, Hervé Le Tellier, Patrice Minet, Jean-Bernard Pouy et Gabriel Godard. Mariage aux Papous dans la tête, première partie. Et tout commence par une page de publi-papoucité et de circonstances, écrite par Eva Almassy avec des rôles pour Jeanne Carillon, Patrice Minet, Lucas Fournier, Hervé Le Tellier. Et les chansons écrites par Eva sur des airs connus seront interprétées par Jeanne, Minet et Gabriel. Gabriel qui joue aussi du piano. Musique.
Emma Sartre, de l'être et du néant, acceptes-tu de prendre pour épouse Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, jeune fille rangée?
Oui, à huis clos.
Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, toi qui es du deuxième sexe, acceptes-tu de prendre pour époux Jean-Paul Charles Emma Sartre pour le meilleur et pour la nausée?
Oui, car on ne naît pas femme, on le devient.
C'est le plus beau jour de votre vie.
Serge Gainsbourg, acceptes-tu par hasard et parasé de prendre pour épouse Jeanne, ex-fan des 60s avec ses dessous chics?
Oui, je vais et je viens entre ses reins.
Jeanne, alias Mélodie Nelson, acceptes-tu de prendre pour époux Serge, fumeur de Havane?
Oui, je l'aime, moi non plus.
Si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais.
Selon un proverbe italien, la femme pleure avant le mariage et l'homme après.
Selon un proverbe russe, l'amour sans jalousie, c'est comme un polonais sans moustache.
Dieu, mais que la mariée était jolie quand elle ressortait devant la mairie, recevant la verse de riz, ça ira, ça ira, toute la vie. Dieu, mais que le marié était mari, quand il embrassait sa tendre chérie, faisant un énorme pari, ça ira, ça ira, toute la vie.
Toi, Tarzan, acceptes-tu de prendre pour épouse toi, Jeanne?
Oh.
Toi, Jane, acceptes-tu de prendre pour époux toi, Tarzan?
Oui.
Dieu, mais que la mariée était jolie quand elle dansait au bras de son mari, parmi leurs parents et amis, ça ira, ça ira, toute la vie. lune de miel en Italie. Ça ira, ça ira toute la nuit.
Il était une fois un prince qui épousa Cendrillon, un autre prince qui épousa Blanche-Neige, et encore un autre prince qui épousa la Belle au bois dormant. Et Pierre, qui était aussi un prince, épousa sa Natacha.
Oui, 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 nous avons tous lu Guerre et Paix. C'est 4 mariages et 1 million d'enterrements.
Ouais, alors, ne gâchons pas la fête, hein. Tous ces beaux couples, ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants.
Ouais, ouais, sinon j'ai un proverbe espagnol qui dit « Le mariage, c'est comme le melon, c'est une question de chance.
» Et un proverbe lapon qui dit « Ça commence par un baiser, ça finit par un bébé. »
Sans oublier que les Bulgares disent « Les jours sont plus nombreux que les saucisses.
» Épouse-moi, 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 ne fais pas le saut. Épouse-moi, 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 je n'ai pas de dot. Nous sommes en tête à tête, quel moment délicat. C'est la fête des amoureux, c'est ça. Épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi en ma robe blanche. Épouse-moi, 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 amour avalanche. Fais-moi vite ta demande, pas de blague entre nous. Tu as la bague, alors mets-toi à genoux.
Comme le dit si justement un proverbe bambara, le mariage n'est pas un grand boubou dont on se débarrasse facilement.
Divorçons, 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 ne fais pas le con. Divorçons, 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 finis-toi, moi on. C'est 20 ans, c'est querelle, je crois bien que cela nous tourmente. À la vraiment, basta.
Ken, acceptes-tu de prendre pour épouse Barbie Fashion Queen avec sa grande queue de cheval?
Yeah.
Barbie, acceptes-tu de prendre pour époux Ken? 30 cm au repos.
Yes, of course.
Je vous déclare unis par les biens du mariage, pardon, les riens. Attendez, j'y arrive, par les liens du mariage.
Laissons s'aimer les petits mariés. Noces d'argent, noces de diamant, noces de sang, Garcia Lorca, n'en parlons pas.
On oublie Emma Bovary,
on oublie Lady Chatterley,
on oublie Anna Karenine,
Tristan Iseult.
Laissons danser les petits mariés, Jane Austen et ses contes de fées. Pire et meilleur en harmonie, jamais fini.
On oublie le marivaudage,
on oublie les libertinages,
on oublie le marquis de Sade,
le diable au corps.
Et Barbe Bleue,
et Peau d'Âne,
et Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir.
Le patient anglais, autant en emporte le vent.
Belle du Seigneur.
Ou Belle du Jour.
Et Meryl Streep dans Sur la route de Madison.
Enfin, les liaisons dangereuses, on les oublie.
Et Mrs. Robinson dans Le Lauréat.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Wow, wow, wow. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Vive le mariage!
Odile Conseil ne s'est jamais mariée. Enfin, pas encore. Mais au cas où ça arriverait, elle a préparé sa non-liste de cadeaux, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut absolument pas recevoir, comme la ménagère en inox, des tas de choses comme ça. Vous avez donc une liste intéressante, elle est longue?
Assez longue, oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses que je ne voudrais pas qu'on m'offre.
Bon, alors,
pour mon mariage, si je me marie, je ne voudrais pas, pour rien au monde, mais vraiment, vraiment, surtout pas, qu'on m'offre le portrait de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir à accrocher au-dessus du lit conjugal. ni les œuvres complètes de Bernard-Henri Lévy. Mais celle de Jean-Bernard Pouy, oui, je veux bien. Je ne voudrais surtout pas qu'on m'offre deux peignoirs, l'un brodé à son nom, l'autre au mien. En tout cas, pas avant d'avoir Alzheimer et de ne plus me rappeler le prénom de mon Jules. Je ne voudrais pas non plus le livre « Comment élever son mari » parce que mon mari, quand je me marierai, sera déjà bien assez grand et qu'en plus, il sera bien élevé. Pour rien au monde, je ne voudrais un frigidaire, un joli scooter, un axomixer et un Dunlopio, ni une cuisinière avec un four à verre et pas non plus des tas de couverts et surtout pas une tourniquette à faire la vinaigrette. Tout ça, c'est rien que des trucs bons à prendre la poussière et à moisir au fond d'un placard. Je ne voudrais pas non plus la liste enluminée ou gravée ou brodée ou imprimée sur un tablier de cuisine des anniversaires de mariage. Un an noces de coton, 2 ans noces de cuir. Réduire le mariage, donc l'amour, cet insurpassable sentiment, ce feu qui vous consume tel la lave du volcan courant dans vos veines, cette trépidation du cœur, réduire ça à du végétal ou de l'animal, non. Je ne veux pas le disque de la chanson des vieux amants de Brel. Enfin, pas tout de suite, peut-être pour notre 40e anniversaire de mariage. Ni une cabane au Canada, ni un château en Espagne, et pas plus de petites maisons dans la prairie. Je ne voudrais pas surtout, surtout pas, qu'on m'offre un jeu d'échecs, ça pourrait porter malheur. Ni une étude zodiacale de nos signes astrologiques respectifs. Le zodiaque, ça va quand on est en mer, sinon qu'il reste où il est. Je ne voudrais pas un pyjama pour mon Jules et un déshabillé vaporeux pour moi. Enfin, sauf s'il est rose. S'il vous plaît, ne m'offrez pas un dessus de lit, ni un dessous de plat, ni un à côté, ni un truc de derrière les fagots. Pour rien au monde, je ne voudrais l'intégrale des enregistrements d'André Rieu. Ce n'est pas parce qu'il est né le même jour que moi et qu'il est balance comme mon Jules qu'on est obligé de l'aimer, non ? Ni les rois maudits, ni la chambre du roi, et pas non plus le roi se meurt ou les œuvres complètes de le roi, la Durie. Mon Jules est farouchement révolutionnaire, il ne le supporterait pas. Je ne voudrais surtout pas un chandelier ou une paire de chandeliers, parce qu'on n'est pas dans les misérables quand même. Je ne voudrais surtout pas un chandelier ou une paire de chandeliers, parce que ça peut très vite devenir un objet contondant, voire l'arme d'un crime passionnel. Je ne voudrais pas surtout, surtout pas un chandelier ou une paire de chandeliers, parce qu'on a pendant nos fiançailles déjà épuisé les joies des dîners aux chandelles qui coulent sur la table et vous ruinent toutes les nappes. Je ne voudrais pas non plus un chandelier ou une paire de chandeliers, parce que des chandeliers, il faut pouvoir les poser sur un dessus de cheminée pour que ça ait de l'allure. Et je ne veux surtout pas qu'on m'offre un dessus de cheminée. Mais un dessous de table, pourquoi pas finalement ?
Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, Odile. Vous faire épouser.
Je vais m'y employer, d'accord.
D'accord. Mariage au papou dans la tête, c'est sur France Culture, en public au studio 105 de la Maison de la Radio. On va passer au faire-part quand on est sur le point de se marier. On est très fiers de rédiger des faire-part de mariage. En général, ce sont les parents de la mariée et du marié qui rédigent, monsieur et madame. Machin chouette, ont le plaisir de vous faire savoir que leur fille Eugénie va se marier avec monsieur, etc., etc. Donc on va écouter une première envolée de faire-part. D'abord, le faire-part proposé par monsieur Jean-Bernard Pouy.
Alors, monsieur et madame Henri et Henriette de Lespol, créateurs du célèbre Carambar, ont le plaisir et la joie de vous convier au mariage de leur fils Henri Junior, avec Carrie, fille de Madame et Monsieur de l'Implant, fondateur de l'Ordre des dentistes et orthodontistes. La cérémonie se déroulera en l'église de Sainte-Anesthésie, à 11h le samedi 18, sous la bénédiction de Monseigneur Pivot, archidiacre de Couronne. Le mariage civil se tiendra en la mairie de Plombage, Seine-et-Marne, à 13h. Nous vous convions également au repas de noces qui se tiendra au château de la Fraise à partir de 14h, tenue correcte et carte vitale exigée. Une liste de mariages est ouverte chez Gustave Moller, rue du Château des Dentiers à Paris, 13e arrondissement.
Lucas Fournier, votre faire-part.
Madame Jocaste, veuve de M. Laios, roi de Thèbes,
a la joie de vous faire part du mariage de son fils Œdipe avec Madame Jocaste, veuve de Monsieur Laios, roi de Thèbes. Le consentement des malheureux époux sera reçu à Thèbes, dans le palais des Labdacides, par Madame Sphinge et Monsieur Sphinx, en présence des dieux de l'Olympe. Un résidé d'honneur sera servi après la cérémonie. À l'issue de celle-ci, les époux partiront en voyage de noces pour Vienne, 19 Berggasse, dans l'établissement du docteur Freud. La cérémonie sera retransmise sur les chaînes prométhéennes avec les commentaires de Sophocle, Eurydipe et Homère.
Odile conseille pour un mariage fusion, disons.
Madame Sabine de Hauvol, PDG de Braise Airlines, et Monsieur Serge Le Tassec, PDG de l'entreprise La Belle Sardine à Douarnenez, sont heureux et fiers de vous annoncer la fusion de leurs entreprises, effectuée dans l'intimité de leur conseil d'administration le 5 juin. Le mariage, réalisé par échange d'actions, a été célébré par le cabinet « Je vends, t'achètes, on fait du fric et associés », avocat fiscaliste à Trébeurdeck-du-Bignou. La nouvelle société, Sardine Airlines, verra le jour le 1er septembre. Pour sceller leur alliance, Madame de Hauvol et Monsieur Le Tassec se sont offerts l'un à l'autre un parachute doré. Fortes de leurs atouts sur leurs marchés respectifs, excellence, compétitivité, réactivité, conscientes de l'avantage décisif qu'une synergie bien comprise leur apportera sur un marché volatile, les deux entreprises s'engagent avec ferveur dans ce win-win deal. La branche aérienne de Sardine Airlines pourra bénéficier pleinement de l'expertise en agencement de La Belle Sardine pour optimiser l'espace passager de ses avions. Grâce à Braise Airlines, la branche sardinière de l'entreprise pourra se projeter plus largement à l'export et assurer en un temps record ses livraisons partout sur la planète. Les deux entreprises vous invitent à partager leur joie en vous offrant jusqu'au 25 du mois une réduction de 5% sur leurs produits phares.
Et le faire part de Patrice Delbourg, très delbourien.
Le docteur Adrien Faluchard et mademoiselle Sonia Casgrain, aide-soignante au CHU de Périgueux, ont décidé de contracter le sacrement matrimonial devant une petite chambrée triée sur le bacille. L'union nickel sera effective le 13 août prochain à midi, non loin du centre de prophylaxie Ambroise-Paré de la région Aquitaine. Le lieu aseptisé où sera sanctifié l'assemblage vous sera communiqué ultérieurement. Gants de protection, barrettes nasales et charlotte dans les cheveux sont souhaités au seuil de la cérémonie. Les serments se prêteront derrière hygiaphone. Un spiromètre sera à disposition des visiteurs près des registres paroissiaux. La tension artérielle de chaque convive sera soigneusement prise à l'entrée de la sacristie. Signalons à toute fin utile et à l'attention d'éventuels esprits méfiants que la dermatose frontale de mademoiselle Casgrain n'est plus qu'un mauvais souvenir et que les travaux de dentisterie ont rendu à son sourire un éclat pléiel. Ses bronchites chroniques ont été résorbées, son taux de cholestérol est largement dans les clous. Quant au docteur Faluchard, en dépit d'une petite cinquantaine affichée, il offre une vitesse de sédimentation digne d'un galopin. L'aspect de son sérum est limpide, la couleur de ses urines opalescente. Ses leucocytes sont impeccables, sodium et potassium au taquet. Les transaminases longtemps excédentaires viennent d'être maîtrisées. Son taux de PSA est voisin de 0,9, ce qui est très satisfaisant. Une sorte de prostate song, en quelque sorte. N'oubliez pas de porter une housse imperméable pour vos souliers. Restez couverts et évitez de tousser sur le porte-alliance. Nous comptons sur votre diligence.
On imagine qu'ils sont mariés tous. Et je me tourne vers Jacques Vallée pour célébrer la noce ou les noces en petit rimailleur illustré. Mais évidemment, c'est un poème sur la ou les noces. Peut-être avez-vous traité les deux, je ne sais pas.
Oui, tous les sens du mot noce.
Voilà, ben c'est parfait. Mais évidemment, vous avez votre propre subjectivité, je suppose.
Et oui, c'est en note que syllabe, si vous voulez.
Ouais, et vous avez la note joyeuse.
Vous verrez.
Oh. Allez.
La noce. Et maintenant, voici la noce. On imagine des carrosses, des belles fées, de grands garçons qui se prennent à l'hameçon. Et pour conforter l'ambiance, on n'oublie pas les réjouissances, les robes, l'endimanchement, les mets, les discours, les présents. Entourant les mariés en foule, on gaillardise, on se défoule, et les vins dansent dans les têtes. S'est-on vu à pareille fête? Et puis, que de folles promesses on se fait dans cette liesse et dans l'ivresse qui s'ensuit. Passons sur la première nuit, sait-on jamais ce qui se passe. Cette lumière est si fugace, comme à Cana, instant divin, où l'eau qui sourd se change en vin. Et puis, après, voici le voyage. Commence un long compagnonnage. Mais si la fée est carabosse, alors on n'est pas à la noce. Et si le mari est barbe bleue, alors attention les yeux. Il y a toujours des excessifs. Ils ne sont pas les plus jouissifs. Le mariage est sacerdoce. Si vous voulez faire la noce ou s'agiter dans le bocal, mieux vaut bouder l'anneau nuptial.
C'est très, 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 très beau. Mais pas très optimiste pour la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Jean-Bernard Pouy ?
Ben, j'ai trouvé une citation. Alors, il y en a plein hein, sur le mariage, ça n'arrête pas. Ouais. Mais j'ai trouvé une citation de Jack Lang. Ça, c'est toujours, c'est toujours bon à prendre.
C'est toujours bien.
Qui dit, ce qui est quand même une pensée relativement profonde quand même, il dit « Les noces de Figaro sont à l'opéra bouffe ce que les noces de Cana sont au brunch végétarien. »
Il a dit ça.
Ah ouais. Comprendre. Enfin, c'est du Jack Lang, donc.
C'est du Jack Lang. On prend et place aux épistoliers Jacques Jouet, Patrice Minet et Hervé Letellier. Alors, ce jeu des drôles d'épistoliers part évidemment du premier, de celui qui lance le jeu. En l'occurrence, c'est Jacques Jouet. Jacques Jouet a imaginé ou pris un personnage historique. Ça, c'était sa volonté de faire comme il l'entendait. Et il a imaginé que ce personnage avait besoin d'écrire à une tierce personne, mais qu'il ne pouvait pas vraiment communiquer avec cette personne directement. Donc, il fallait qu'il passe par un intermédiaire. Voilà la situation posée. À partir de là, tout est à imaginer par Jacques Jouet, n'est-ce pas ? Alors,
oui.
Qui êtes-vous ?
Je suis la pucelle d'Orléans.
Voilà, il faut qu'on fasse un petit travail mental pour l'imaginer, mais c'est possible, c'est possible. Parce qu'elle était très ambiguë. Non, elle avait une coupe de cheveux qui... Hein ?
Oui.
Un peu comme vous. Donc vous êtes la pucelle d'Orléans et vous écrivez à qui ?
Et j'écris à Sganarelle.
Ce sera Patrice Minet.
Orléans, le 1er avril 1429. Cher monsieur Sganarelle, sans doute mon nom ne vous dira rien, ni mon sobriquet de pucelle d'Orléans. Mais sachez tout de même que nous nous sommes rencontrés l'année dernière en France, tandis que, étant parfaitement capable de lire et de vivre l'avenir, j'assistais à une représentation de votre histoire scandaleuse par bien des côtés, au théâtre du Palais Royal dans la bonne ville de Paris. Votre maître est un païen, un libertin dans tous les sens du terme, je ne l'ai que trop bien compris. Depuis lors, je prie pour lui avec, je crois, un certain succès, puisque l'on m'assure que ses aventures ne se sont pas le moins du monde terminées par la poignée de main fatale du commandeur et qu'il continue donc de remplir l'objectif de sa vie qui est de se marier 1000 et 3 fois au moins par toute l'Europe. Rassurez-vous, ma requête n'est en aucune façon une proposition de ma part en vue de prendre place dans la file d'attente de ses promises. D'ailleurs, je suis ce qu'on appelle un garçon manqué, militaire et convaincu de sa mission divine, qui est aussi une mission bien évidemment politique. Les Anglais sont à Orléans, je ne dirai qu'un mot, exit. Pourtant, j'ai effectivement l'intention de me marier. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de ne plus être harcelé par les ruffians, badernes, obsédés sexuels et autres chenapans qui constituent le lot quotidien de mes compagnons d'armes. J'ai mon fiancé, c'est un bon garçon d'Orléans qui lui aussi est puceau. Peu importe son nom, appelons-le le puceau d'Orléans, et tout ira bien. Ce qui me soucie, figurez-vous, c'est le moment d'un mariage que beaucoup redoutent, je ne fais pas exception, et qu'on appelle, je crois, la nuit de noces. Je ne voudrais pas que celle-ci soit un échec, comme je me suis laissé dire que c'était souvent le cas. Moi qui, de jour comme de nuit, ai toujours gagné toutes mes batailles, je ne supporterai pas un revers, une défaite, un fiasco. Il me semble en conséquence que le meilleur conseiller en la matière n'est autre que celui qui s'est marié déjà plusieurs centaines de fois et doit avoir la plus haute expérience de la nuit de noces dont il pourrait faire profiter la rédemptrice que je suis du royaume de France. J'ai plusieurs questions que je voudrais que vous posiez discrètement à votre maître en attendant de me transmettre les réponses dans les meilleurs délais. Premièrement, que se passe-t-il exactement cette nuit-là ? Pourquoi ce moment est-il aussi crucial dans un mariage ? Deuxièmement, combien de temps dure exactement la nuit de noces ? Est-ce toute la nuit ou le mot nuit n'est-il qu'une façon de parler ? Peut-on réduire la nuit de noces à une heure ou deux ? Troisièmement, est-il complètement inimaginable que la nuit de noces ait lieu de jour ? Ceci pour éventuellement pallier une perfidie anglaise qui pourrait profiter de ma nuit de noces pour attaquer avant le chant du coq. Quatrièmement, plus précisément, puis-je me présenter à la nuit de noces en armure ? Étant militairement sur la brèche 24 heures sur 24, ce type de costume m'arrangerait. Cinquièmement, puisque je ne voudrais pas être ridicule au moment de ma nuit de noces, je suis preneuse de tout conseil qui m'aiderait à prendre l'initiative dans le cas où mon époux serait encore plus mal informé que moi sur les us et coutumes de ce genre d'événement. Ces questions, cher monsieur Sganarel, vous sembleront peut-être triviales. Elles sont pour moi de la plus extrême importance et j'attends que l'exceptionnelle expérience de votre maître serve mon pays. Vive la Vierge Marie, vive le roi, vive la France.
Donc, Sganarel, c'est Patrice Minet. Don Juan, ce serait Hervé Le Tellier, celui qui avait le plus le profil dans l'équipe. Patrice Minet.
Je sais pas quoi
est-ce
dire.
Que vous... vous
sans entre, commentaire. Entre autres, les bras m'en tombent. Entre autres.
Patrice Minet, est-ce que vous relayez la demande de Jeanne ?
Mais évidemment.
Ah, sympathique. Donc, vous écrivez à Don Juan.
J'écris à Don Juan, oui. Ouais. Oui, à propos de la pucelle. Bécon les Bruyères, le 10 avril 1429. Mon maître, ne sachant écrire, je dicte cette lettre à la mère Ursule, la sorcière du village, qui m'a assuré être capable de vous la faire parvenir dans l'au-delà, car cette vieille a d'excellentes relations avec le diable. Figurez-vous qu'une givrée concupiscente m'a envoyé une lettre où elle expose son besoin de vos conseils et de vos services. La mère Ursule m'a donc lu la lettre de Jeanne, qui chercherait à perdre vite fait son pucelage avant le mariage, et par-dessus le marché, éclairer la lanterne de son empoté de mari dans la foulée. Cette Jeanne serait ignorante des choses de la chair et désirerait que vous la dégustiez vivante dans une armure, à la manière d'une langoustine ou d'une huître. Je crains que ce ne soit pas sans risque pour vous, car la drôlesse serait une militaire et probablement armée. J'imagine que son fiancé, qu'elle appelle son puceau d'Orléans, doit être une brute d'adjudant au front bas, aux manières de sa pajou, et aussi habile en amour qu'un marteau de forgeron embrassant son enclume. Et je doute qu'il fasse des étincelles. Ah, monsieur, je ne suis que votre valet, et si vous étiez présent, vous ne me demanderiez pas mon avis. Mais comme vous n'êtes pas là, je vous le donne. Cette coureuse, cette Jeanne-Marie Couche-toi-là, qui se croit sortie de la cuisine de Jupiter, n'en veut qu'à votre bourse, c'est évident. Son histoire, soi-disant détachée des sentiments et simplement informative, pue à 100 lieues la coureuse de dot. Je sais que pour vous, dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, il ne se trouve rien de trop chaud ni de trop froid. Et je sais le nom de toutes celles que vous avez épousées en divers lieux. Il n'y a ici que la mère Ursule qui vous a échappé. Mais, comme elle a près d'un siècle, on peut craindre qu'il ne soit trop tard, bien qu'elle prétende le contraire. J'imagine néanmoins que l'enfer n'a point refroidi vos ardeurs. Mais celle-là, la Jeanneton qui fait sa mijaurée, cette sainte Nitouche avec son brasier ardent quelque part, ce n'est pas elle qui vous fera rentrer dans les bonnes grâces de la statue du commandeur, que vous n'oublierez pas de saluer bien de ma part. Je vous joins sa missive, datée du 1er avril, jour dévolu aux poissons. Hélas, cela fait bien longtemps que je n'y ai plus goûté. La faute en est à votre disparition subite qui m'a laissé les poches bien vides. Alors, sans rire, monsieur, si vous repassiez par ici pour dégourdir la soldatesque en jupon, n'oubliez pas d'arroser votre valet qui se morfond sans gage, sans maître et sans illusion après tant d'années de service. Signé, votre dévoué Sganarelle, au bon soin de la mère Ursule, qui vous précise discrètement que sa porte, son cœur et sa couche vous sont ouverts.
Il écrit très joliment, Sganarelle. Et donc, il vous a écrit, vous avez reçu la lettre, Jean-Hervé Letellier, oui.
Les voix du diable sont impénétrables, donc...
Et alors, vous écrivez à Jeanne.
Bien sûr, je réponds à Jeanne.
Oh, c'est gentil.
Oui. Ouais. Chère Jeanne, pour commencer, veuillez excuser cette écriture saccadée. Je chevauche depuis une heure déjà et je n'ai guère envie de descendre de ma monture. Mon valet Sganarelle, oui, Sganarelle, que j'ai embauché parce que justement il a un prénom de valet, m'a fait parvenir une autre missive ainsi qu'une lettre qu'il a dictée à mère Ursule, celle qui rit... Enfin, je m'égare. Vous êtes donc pucelle. Et vous avez trouvé un puceau. Tout d'abord, je voudrais vous rassurer, le pucelage, c'est comme les porte-monnaies. Tous les jours, on en perd et personne ne les retrouve. Ensuite, chère Jeanne, vous vous appelez Dark, ça ne saurait nuire. Les arcs se bandent, c'est de bon augure. D'ailleurs, en y pensant, j'ai connu une Mireille Dark dans mes très, très, très jeunes années et je me demandais si vous étiez de la famille. Hein ? Vous me le direz. Bon. Mon Sganarelle, je vous l'avoue, a tenté de me mettre en garde contre vous, mais en vain, je vous sens sincère. Alors... Je vais donc répondre dans l'ordre à vos questions. La première, que se passe-t-il durant la nuit de noces ? Eh bien, pour tout vous dire, je n'en sais fichtrement rien. Je n'ai jamais été marié. J'ai juste eu 1003 échos de la part de femmes qui l'étaient. Alors, bon, j'imagine aussi, à relire votre interrogation, que c'est votre première nuit de vos vraies noces. Même pas les noces de papier ou les noces de cuir. Pour les noces d'or, la nuit est souvent très calme. Hein. Donc, sur ce qui se passe, soyez prête à tout. Combien de temps dure une nuit de noces ? Alors là, chère Jeanne, c'est vraiment très variable. Mais si vous le pouvez, essayez de vous marier le jour du changement d'heure. Dans le pire des cas, la nuit de noces pourra durer 1 h 03 min. Une nuit de noces de jour ? Ah, ben oui, mais tout dépend du jour. Évitez le vendredi, jour dévolu au poisson, qui lui aussi sent le poisson. Alors, ensuite, peut-on être en armure pendant la nuit de noces ? Ben, la réponse est oui, absolument. Si votre mari est très aimant, ça peut être attractif. Excusez-moi. Bon, faites seulement attention avec les poils. Les poils peuvent se prendre dans la côte de maille. Alors, dernière question, pouvez-vous prendre l'initiative si votre époux était encore plus mal informé que vous ? Alors sachez que j'ai reçu une lettre absolument identique à la vôtre, quant au fond, voire peut-être même sur la forme, d'un jeune Orléanais nommé Pierre de la Porte d'Orléans. J'imagine qu'il s'agit de votre puceau. Sachez qu'il est plus inquiet encore que vous et que je lui ai répondu dans les mêmes termes. Il m'a demandé si vous étiez porté sur la chose. Je lui ai répondu que je n'en savais rien parce que quand même le pire, c'est de tomber sur une femme portée sur le sexe mais pas sur le sien. Bon, alors, vous ferez au mieux et ce sera bien. PS. Je voulais aussi vous rassurer. Le sexe n'est jamais sale. Sauf quand il est bien fait, vous ne risquez donc rien.
Une petite réaction, Jeanne d'Arc.
Ben, j'en sais beaucoup plus long, déjà.
Oui.
Et je crois que je vais me faire faire une épilation définitive pour l'armure. Hein.
Avec un rasoir gilette dorée.
Oh, bravo! J'ai mis un peu de temps, pardon. Il m'a fallu 10 secondes pour comprendre. Lucas Fournier, Patrice Minet, vous voulez bien aller dans la salle? On va pêcher des mots. Mais alors, attention, on ne joue pas aujourd'hui à 10 mots pour des histoires. On ne joue pas non plus au bout rimé. C'est plus difficile. On va jouer, c'est-à-dire ils vont jouer. Odile Conseil, Jacques Vallée, Hervé Letellier et Jacques Jouet au nouveau fabuliste. Alors, qui sont les fabulistes ? Eh bien, ce sont des poètes qui savent rédiger une fable et une moralité, parce que serait la fable sans sa morale, mais avec des héros qui ne sont ni des humains ni des animaux. Ah, c'est plus difficile. Donc, on va vous demander des mots. Par exemple, je vous donne comme ça, le petit bonheur et la pince à linge. Ça peut faire une jolie fable. Il y a un mot abstrait, un mot concret, ou un groupe de mots. Vous voyez un peu l'idée ? Vous avez entendu ça au papou ? Vous écoutez les papous dans la tête ? Oui, oui. Alors, qui a une idée de mots abstraits ou de groupe de mots abstraits qui pourrait faire un joli personnage ? Ne vous précipitez pas.
De très nombreux bras se sont levés, madame.
La comète ?
Alors, la comète, est-ce abstrait ?
Ah oui, oui, c'est bien.
Est-ce vraiment abstrait ? Je ne sais pas.
Mais on peut dire... Oui, c'est concret. Ouais.
On peut peut-être compléter. Quelqu'un avait un
mot proposé. Patrice Minet.
Le brin de muguet.
Le brin de muguet.
Oh, bah oui.
Là, vous avez le droit de refuser. Hein. Alors, là, on prévoit des personnages pour Jacques Jouet et Hervé Le Tellier. C'est-à-dire qu'ils joueront avec les mêmes mots. Donc, on peut en lancer, puis on choisira après. Hein. Donc, on a la comète, le brin de muguet.
Un autre.
Le plein emploi.
Le plein emploi. Ah, c'est un concept.
Très abstrait.
Et c'est un personnage intéressant. Moi, je pense
avec le brin de muguet, ça colle très bien, c'est le 1er mai.
Le plein emploi.
Vous prenez le plein emploi.
Moi, je prends le plein emploi, oui.
D'accord.
Et la comète.
Alors, un mot qui irait avec le plein emploi. Le plein emploi et Patrice.
Louvre-Rivoli, la station.
Ah,
Louvre-Rivoli.
Ben, il y a un ministère par là, ouais.
Il y a une station de métro aussi.
Il y a aussi une station de métro. Le plein emploi et Louvre-Rivoli, je ne sais pas
c'est
si ça le fait à l'oreille.
Ouais.
C'est trop proche.
Oui. Trop proche.
Bon, mais c'était bien. Hein.
Vous avez quelque chose de moins abstrait ?
Le grippin.
La machine à laver.
Le grippin.
Ah, le grippin.
Ah, le grippin, c'est pas mal, non ?
Le plein emploi et le grippin.
Et le grippin.
Oui,
ça
bien.
Vous va, tous les
oui,
deux ?
Oui, oui.
Parfait.
Parfait.
Vous ne préférez pas la machine à laver ?
Non, le grippin. Le grippin.
Bon, bravo, merci beaucoup. Hein. Alors maintenant, non, ne partez pas. On joue, on trouve des mots pour Odile Conseil et Jacques Vallée. Alors, un mot abstrait.
La transparence du voile.
Transparence, c'est joli, ça.
C'est
ça dépend avec quoi
oui.
Ça va. Ouais. Allez-y, d'autres mots.
L'ouvre-boîte.
Un porte-bonheur. Un l'ouvre-boîte est un très beau personnage.
L'ouvre-boîte, c'est excellent.
L'ouvre-boîte.
L'ouvre-boîte et l'ouvre-rivoli. Peut-être en reprendre un d'avant, c'est pas mal. L'ouvre-boîte.
Attendez, on n'entend pas du tout s'exprimer, Odile Conseil et Jacques Vallée. C'est vous qui êtes concerné, vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de choisir.
Ben, hein? On peut essayer d'autres mots.
D'accord, alors on va essayer d'autres mots.
Moi j'aimais bien la transparence.
Oui, ben, la transparence, on peut la garder.
Un train chaud.
Un train chaud. C-H-A-U-D.
Un train chaud.
C'est quoi un train chaud?
Mais c'est bien connu. C'est quoi? Ils sont tous trop chauds, non?
Un train chaud, c'est les.
C'est comme un chien chaud, mais c'est un train.
Bon, on a plein de mots. Côté Lucas.
C'est le contraire d'un train sec, c'est vrai.
Fantaisie.
Fantaisie. Oh, c'est trop facile, fantaisie,
trop facile.
Non.
Un chaud-froid.
Ah, c'est pas mal, ça.
Un chaud-froid.
De poulet?
De bouillon.
Attendez, moi je vois Jacques, il est tout blanc au
dessus. Non,
aussi,
non,
donc,
mais
essayons de trouver d'autres mots pour qu'ils aient le choix un petit peu. Pardon.
Non, c'est un mot à côté de la transparence.
Un talon d'Achille.
Ah. Alors quelque chose qui aille avec la transparence.
Talon d'Achille.
Il faudrait un concret pour aller avec ça. Vous êtes d'accord tous les deux sur la transparence?
Oui.
Une serrure.
Le balai brosse.
Ben c'est parfait.
C'est pas mal oui. Ça.
Le balai brosse.
Le balai brosse. Qui dit mieux?
Serrure. Nous avons une espadrille.
Ah, l'espadrille, c'est joli, c'est un personnage
avec un chef
féminin.
D'espadrille.
Non, l'espadrille. Qu'est-ce que vous dites?
Non, mais une bêtise.
Un solilès. Un solilès.
Ah, ça y est, là.
On a déjà fait Jeanne d'Arc.
Le jaillissement.
Ah, ça jaillit de tous les côtés. Mais...
On va prendre la transparence et l'espadrille.
Vous êtes
merci
d'accord
à vous
tous,
tous
les deux.
C'est un merci. Beau cadeau que vous nous faites là.
Alors, ils vont aller travailler. Vous allez les regarder travailler. Pas vous, Jacques, vous restez encore un petit peu. Parce qu'on a besoin de vous. Mais d'abord, on écoute un petit morceau de piano. Généralifé, c'est ça, Gabriel ? De Joachim Turina.
Thank you.
Et nous sommes tous conviés au mariage de la fille de Monsieur Charpineau. C'est un joli mariage. J'espère que ce sera un joli mariage. Et j'ai eu envie pour ce jeu de marier deux contraintes. Celle du roman interactif et celle des exercices de style. C'est-à-dire que chaque chapitre se terminera non pas par une possibilité, même trois possibilités de suite possible, mais par trois styles différents pour celui qui reprend l'histoire. Alors le premier, celui qui a écrit le premier chapitre, il était libre de cette contrainte, donc c'est Lucas Fournier, il a fait du Fournier.
Il fallait quand même qu'il y ait un mariage.
Absolument. Oui. La contrainte était qu'il fallait un mariage et que le mariage n'ait lieu qu'au chapitre 5. Ah ! Donc, il se passe des choses. Et donc, vous avez tout imaginé, Lucas. Racontez-nous.
Donc, ça s'appelle « Le mariage de la fille de M. Charpineau ». Chapitre 1. Jules et Gilles. C'est samedi. Et le samedi, on se marie. La petite église de Cucustron-les-Jujubes déborde de fleurs et d'invités. Les chapeaux des dames frétillent, les nœuds papillons butinent les glottes masculines. Et la mariée, Marianne, déjà agenouillée devant l'autel, possède cette grâce vaporeuse qui n'est pas sans rappeler le deuxième mouvement du Quatuor à cordes opus 32 de Luigi Boccherini dans la version raffinée que lui confère l'interprétation de Miklos Perenyi. Quant à Octave Charpineau, chevalier de l'ordre national du mérite et père de la mariée, il s'attache à régler les ultimes détails de la cérémonie. Seul contretemps, le désistement de dernière minute du député-maire Pierre Barbaroux, retenu par la brigade financière du SRPJ de Toulon. Sinon, tout va bien. Jules, le témoin des mariés, se fait légèrement attendre. Quant au marié, Gilles, lui, ne saurait tarder. Pour passer le temps, l'organiste de l'église exécute pour la 7e fois les émouvantes mesures de la marche nuptiale de Wagner. « Treulich geführt, die darin, wo euch der Regen der Liebe bewahrt. » Jules et Gilles sont amis depuis l'enfance. Jules est agile et Gilles est adroit. Leur amitié a résisté à tout ou presque. Marianne est arrivée dans leur vie, insolente et joyeuse, comme un motif arpégé surgissant dans la symphonia numéro 11 de Jean-Sébastien Bach. Ils sont tombés amoureux, elle les a aimés. Et à la fin, elle a voulu Gilles pour Jules et Jules ne lui en a pas voulu. Gilles est un beau parti. Ce matin, il est parti, justement, pas bien loin, sous cette église exactement, là, juste en dessous, dans la crypte. C'est une idée de son ami Jules que d'aller s'incliner devant le gisant en marbre noir de Léon d'Olioul, recteur du comtat vénécin de 1353 à 1353, et celui en marbre blanc de sa tendre épouse, Marie de Carquéran. Et tandis que Gilles, le futur marié, se penche pour tenter de déchiffrer l'inscription gravée sur le catafalque, « O vos omnes qui transitis per viam attendite et considerate quia certa mors iminet incerta iusa manent orate deum promortuis peccatoribus. » Jules, son ami et témoin, ferme malencontreusement la lourde dalle de granit qui clôt la crypte. Les lois de la physique sont sans issue. Et c'est bête, car si Gilles ne sort pas rapidement pour se mettre en marche, nuptial, il n'est pas sûr que son futur beau-père, M. Charpineau, apprécie la plaisanterie. Il se peut même aussi que Marianne change d'avis entre Gilles et Jules. Savons-nous ce qui se passe dans le cœur des hommes? Et pouvons-nous prétendre connaître le secret des femmes? Pour sortir de cette situation bloquée, nous proposons de poursuivre ce récit palpitant. Petit 1 en mode roman noir au suspense insoutenable. 2 en style raffinement japonais. 3 façon comédie musicale américaine à la 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 Land.
Bon, c'est un très très joli début d'histoire. Et on passe le témoin à Jean-Bernard Pouy. Qui choisit quel style?
La La Land.
Pas les Japonais.
Non.
Pas le La La Land.
Non.
Donc le roman noir.
Ah,
au suspense à son temps, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc chapitre 2. Gaspard et Excalibur. Dans une obscurité quasi totale et s'apercevant à des couinements inquiétants que plein de rats semblent faire leur shopping dans la crypte, Gilles est maintenant persuadé que son ami Jules, avec des amis comme ça, c'est pas la peine d'avoir d'ennemis, l'a blousé profond. Du coup, il a le blues. Dans sa tête résonne une si lancinante Me and the Devil Blues de Robert Johnson. Cerise au cyanure sur le gâteau à l'arsenic, Gilles n'est pas vraiment certain qu'après la cérémonie, son soi-disant pote ne vienne le délivrer. Il n'a que peu de temps. Dans moins d'une heure, Jules sera l'époux. Maria, c'est certain, n'hésitera pas longtemps. Elle en perd un, mais il en reste un autre, quasiment le même. Charpino, lui, s'en foutra. Never mind, comme disait Nirvana. Ce qu'il veut surtout, c'est se débarrasser de sa fille qui commence à lui courir sérieusement sur le haricot. À l'aide de la torche de son smartphone, Gilles inspecte sa prison. Avec horreur, il aperçoit les rats. Très affairés, sortir souvent d'un trou creusé à la base du cercueil de Léon de Lioul. Ces sales bêtes avaient dû depuis longtemps boulotter le recteur, mais il devait peut-être rester à l'intérieur de la tombe des objets dont Gilles pourrait servir pour sortir de sa prison. Il se souvenait avoir vu tous les épisodes de MacGyver comme vous. On voit ça dans tous les films. Il n'y a pas de raison. Alors il ramasse une pierre, attaque les flancs du cercueil et chantonne « Ballade of a Thin Man » de Bob Dylan, qui vient d'avoir le Nobel. Le marbre humide est devenu quasiment friable. Assez rapidement, il fait une grosse ouverture et toujours avec sa mini-torche, il aperçoit entre plusieurs Gaspard qui fuient dans la tombe, le crâne grimaçant d'un squelette, beaucoup de poussière et le pommeau d'une grosse épée. Dans la petite église, Charpino a piqué sa crise, évidemment. Lui vivant, sa fille se marierait aujourd'hui. Marianne l'a calmé en le prévenant que si c'était pas Gilles, ça serait Jules. C'était pas plus compliqué que ça. Le curé, lui, est totalement dépassé et pense sérieusement à s'établir au Tibet. Marianne a mal au genou à force depuis le temps. Mais Jules se met à ses côtés, lui prend la main, lui sourit comme un premier communion, même si, inquiet, peu avant, il a entendu les coups sourds et répétés venant de la crypte. Le prêtre pose alors la question fatale. « Monsieur Jules, voulez-vous épouser mademoiselle Marianne Charpino, ici présente ? » Mais à la place de celle du futur, une voix venant du fond de l'église lui répond « Oui ». Tout le monde se retourne et découvre Gilles, couvert de poussière, au bord de la tombe entrouverte, une énorme épée à la main. Alors, pour sortir de cette situation quand même relativement dramatique, nous proposons de poursuivre ce récit palpitant, soit en mode hugolien, genre légende des siècles, soit en style orientaliste, façon Pierlotti, quoi. Mmh. Soit façon comédie musicale américaine.
Il s'en passe des choses au mariage Charpino. Jacques Vallée, c'est à votre tour. Vous relayez l'histoire. Alors, vous avez l'embarras du choix pour le style,
oui,
non?
Mais je ne prends pas le style orientaliste, non, ni la façon comédie musicale américaine. Je prends en mode hugolien, genre légende des siècles, c'est le plus difficile.
Ah ben, c'est vrai. Le goût du risque.
Chapitre 3, Marianne disparue. L'épée sur son front brille. Elle a nom Haute-Claire. Gilles apparaît noir et bouillant de colère. Mais il n'a plus la force, au sortir du caveau, de soulever le glaive et couper en morceaux et son traître d'ami et sa fourbe maîtresse. L'homme tombe évanoui, interrompant la messe. Lors Jules de bondir plus fautu que jamais, criant dans la nef, « Gilles, je t'attendais !» Il vole à son secours comme une plaie d'Égypte, tandis que Marianne a couru dans la crypte se réfugier, fredonnant d'une douce voix, « Ça s'en va et ça revient !» de Claude François. Ayez des faiblesses aux femmes, c'est votre charme. Chaque être doit combattre avec ses propres armes. Un jeune homme a suivi la belle Charpino. C'est un ami d'enfance. Il s'appelle Thibault. C'est le second témoin officiel de la noce. Distingué, calme et fier, il est plutôt beau gosse. Il fixe la mariée de ses deux grands yeux noirs comme s'il dévorait un grand nu de renoir. Marianne, dans sa robe, est pleine de sève et semble en ce caveau reluire comme un rêve. Mais les restes de Léon d'Olioul, les rats, l'épouvante, la font se jeter dans ses bras. Il s'en faudrait de peu que ce Thibaut s'égare. Il la tient bien serrée, ainsi que sa guitare, le poète Brassens évoquant son butin, je l'ai mise en lieu sûr entre mes bras câlins. Alors, tous deux craintifs, dans la lumière grise, écoutent la clameur qui provient de l'église. C'est comme un ouragan qui là des cieux descend. Les gens se sont levés, encore tout frémissants. On dirait que la foudre est tombée dans l'église. On cherche le témoin, on cherche la promise. Et quel est le mari? À chacun son souci. Octave Charpineau, on devient cramoisi. On crie, on tombe, on part, la vie est un songe. L'étonnement est grand et l'attente s'allonge. Ramené à la vie, Gilles file à l'autel pour recueillir enfin l'engagement solennel. Sur un air de Purcelle, joué par la grande orgue, il voit sa vie renaître, sortir de la morgue, quand soudain il comprend, la mariée n'est plus là. Et sa disparition sonne en lui comme un glas. À quoi bon ta splendeur, ô sereine nature? Un seul être vous manque et c'est une torture. Jules et Jim, lors, devant l'adversité, consentent à mettre un terme à leur rivalité. Fou qui, dans un typhon, prend soin de ses chicanes. L'important désormais, retrouver Marianne. Oh, dans le cœur de l'homme où tout vacille et fuit, s'ancre le désarroi, règne l'affreuse nuit. C'est alors qu'on entend du fond d'une chapelle un cri primal, et Gilles, ému, dit « C'est elle !» Elle apparaît superbe, avec un collier d'or, et porte dans ses bras le corps de Thibaut mort. Pour sortir de cette situation terrible, nous proposons de poursuivre ce récit palpitant. Un, en mode comédia dell'arte. Deux, en style roman russe. Trois, façon comédie musicale américaine à la langue.
Bravo, Jacques. Magnifique. Alors, il s'en passe des choses, mais c'est terrible. Eva Almassi, vous avez trois styles qui vous tendent les bras. Est-ce que La Land va encore être refusée?
Mais pas du tout. Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à placer. À placer après Hugo. Chapitre 4, Papa Outé. Héberlués par ce spectacle, Jules et Gilles sortent comme un seul homme sur le parvis de l'église. Et toute l'assemblée fait de même en poussant un cri de cœur en chœur et en fa dièse majeure. Oh! À la vue du corps sans vie mais musclé de Thibaut qui se soulève et s'envole en cinémascope vers des nuages roses en technicolore tout en fredonnant un air de Fred Astaire. Heaven, I'm in heaven. Le curé, rassuré sur cette destination finale, exécute un grand jeté en avant pour inviter ses brebis à retourner dans l'enceinte, même si la soutane limite un peu son grand écart final. Les demoiselles d'honneur de Marianne sont des demoiselles de Rochefort et donc, ce sont des sœurs jumelles. Elles tournent leur chapeau coloré vers le west side de Cucustron les Jujubes, où l'on voit une bande de jeunes mâles débarquer au son de « La 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 in America, la 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 in America, l'America ». La mairie, c'est ça. Oui, c'est monsieur le maire qui approche, entouré des danseurs de claquettes de la brigade financière du SRPJ. L'élu, on l'a lavé de tout soupçon, il en est encore tout mouillé. Son écharpe tricolore dégouline, tandis que Gilles, qui a toujours voulu devenir organiste de jazz,
ose enfin réaliser son rêve et entame des variations sur le thème de La 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 Land, qu'il fait amoureusement résonner dans les tuyaux du modeste instrument de village. City of stars, are you shining just for me? Vous dansez, mademoiselle? Mais c'est vrai, Marianne n'est toujours pas madame aux grandes dames de tous. Elle dit oui à Jules, pas pour la vie, mais contre la vie de la bienséance, le temps d'une danse. Très beau couple, ils partent pour un pas de deux dans la travée, corps contre corps, hanches qui ondulent, portées, pirouettes et autres acrobaties sensuelles. Pendant que les belles familles espèrent que personne n'a oublié la tondeuse à gazon sur la liste de mariage ouverte par Jules et Gilles chez Truffaut, Marianne a le vertige. Sa tête tourne pile puis face. Certes, Jules danse comme John Travolta, mais Gilles joue comme Gershwin. Ah, que faire ? T for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Un peu étourdi, le visage joliment rosé, son voile ainsi que ses longs gants de satin blanc rajustés, Marianne cherche le bras de son père qui la conduira jusqu'à l'hôtel. Papa, papa, où t'es, papa, où t'es? Or, ce père qui, en principe, marie sa fille aujourd'hui est introuvable. Monsieur Charpineau a tout bonnement disparu. Pour sortir de cette situation inextricable, nous proposons de poursuivre ce récit palpitant en mode roman gothique raconté par un vampire ou genre nouvelle de science-fiction narrée par un extraterrestre ou encore style bafouilleur conté par quelqu'un qui ne trouve pas ses mots. Oh.
C'est à vous, Patrice Minet. D'aboutir au mariage, nous arrivons au cinquième chapitre, donc il doit y avoir un mariage, on ne sait pas de qui.
Comptez sur moi.
On va retrouver papa.
Oui,
on
papa.
On va le retrouver. Bon.
Papa.
Alors, vous choisissez quel style?
Vous allez comprendre très vite.
Non, d'accord.
BRF. Je serai BRF, pas en l'air et si con. Concis et lapidaire. Où en sommes-nous? Ne sonnez pas, grandes orgues, le maire est là, mais le père pas. Mais, oh, impatient, la fin est proche, qui verra l'occlusion heureuse et l'obus dans le tunnel, le bout, le tunnel, la conclusion. Ah là 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 là, c'est vice et versa, vice là, rendu la langue dans les mots. Qu'importe, car l'oignon sera célébré, coucou que coucoute. Voyez dans le ciel bleu siffler les mers, les chansignols rôtés. Ah, le rôt du chansignol. Entre Gilles et Jules, la drôle de guerre ne fait plus rire. La rive évitée, avalée, vitalité, rivalité. La compétition, le corps à corps entre eux, c'est tellement rude que les deux, Gilles et Jules, ne font plus qu'un. Et Médercé, et désormais, on a un seul et unique Gilles et Jules que Marianne baptise Gélule. Marianne, vas-tu prendre ta Gélule pour les poules? Prendre Gilles et Jules pour des poules? Oui, petite tête, épithète, peut-être. Mais ça prend papa, pas sans papa. Justement, le voilà. Mamma mia, papa, dans quel état t'es? Ma fille, dit-il proposément, après un bref arrêt pour muecter le gosier, l'osier, au babar, au bibi, au bobo, au café tabac pour me remonter. En sortant, mes jambes se sont redorées, débordées, dérobées, et j'échoue dans le sofa, dans le fossé. Mais trêve de contumace, ma fille, bientôt en couple, prends-moi le bas. Prends-moi le bar, garçon, la même chose. Non plus tard et courons à l'hôtel. Dites oui, Marianne et les gélules aussi. Oui, c'est les trois oui. Les trois oui sont dit, l'ange et les éléphants, non, lécher les élans, enchanté, échanger les alliances, embarrassez-vous l'un après l'autre, au suivant, poussez pas derrière. Vous voilà éclairés, unis par les liens du mariage. Non, pas vous, le père, vous pouvez lâcher la mariée. Et vous, les époux, arrêtez de vous embrasser devant votre femme. Trompé, sonnette, bateau roulé, ou plutôt non, sans trambour ni tromperette, la noce est consommée. Ah, la belle cérémonie, ah, la belle cérémonie. Viens, nuit qui coule nos paupières, aveugle, œil tendre du jour compatissant. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Merci Macbeth, merci Shakespeare. Allez, on se tire, allons festoyer, tostons un porc à la santé des jeunes ramiers.
Vous espériez un tel déroulement pour votre roman, Lucas ?
Non, c'est au-delà de mes espérances.
Alors, vous avez écrit une chanson qui est la chanson du roman Charpineau. Et Marianne, c'est Jeanne Carillon qui va la chanter, accompagnée au piano par Gabriel Godard.
Sans bafouiller.
Je vais essayer.
Musique.
Elle avait deux bagues à chaque doigt et deux amoureux pour se marier. Et elle attendait avec son papa qui bientôt s'énerva. Elle avait un voile en percale qui poireautait. Il y avait des gens couleur locale. Et puis Marianne au visage pâle. Et puis Marianne au visage pâle. On a perdu Gilles, on a perdu Jules. Le mariage est fichu, oui vraiment fichu. On les a paumés, ils sont enterrés. Et on est atterrés. C'était les mois à la mairie, à ces fripons de Marie. Toute cette histoire, aïe aïe aïe. Ça fait quand même un beau bazar. Ça fait quand même un beau bazar. C'est alors que Thibaut, qui est pas inconnu, et qui l'a fait rire et qui lui a plu, a séduit Marianne sous son joli voile, mais lequel épouser ? Marianne trouve tout ça excitant, trois fiancés en même temps, mais pour l'instant elle les attend, et le suspense est haletant, et le suspense est haletant. On a revu Gilles, on a revu Jules, Thibaut n'y est plus, on l'a descendu, les autres sont remontés, on les a retrouvés et on va convoler. C'est plus les mois à la mairie et Chapineau ravi voit sa fille sortir, ah là là, accrochée à deux paires de bras, accrochée à deux paires de bras. Quand on s'est perdu, quand on était perdu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on est fiancé, quand on veut s'épouser, pourquoi se limiter? Alors Marianne est repartie, de Cuquestron ravie. Ils ont continué à se marier, tous les trois enlacés, tous les trois enlacés, tous les trois enlacés.
Mariage au papou dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard, équipe technique et de réalisation Anne de Pelchin, Bernard Laniel, Régis Nicolas, Célia Dufour, attachée de production Marie Dalquier. Les photos de la soirée prises par Marie sont sur la page Facebook des papous dans la tête, prêtes à recevoir vos likes, et à la page des papous du jour sur franceculture.fr. Vos messages, vous les postez sur Facebook également ou par mail, lespapous@radiofrance.com. On se retrouve dimanche à 12h50 pour le dernier numéro des Papous de la saison. avec la deuxième partie de notre soirée en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Mariage au papou dans la tête, au menu les faire-part en tout genre, même en chanson, alliance au doigt, le coup de sang de Patrice Delbourg contre les cadeaux de mariage, la lettre de château et le roman Rembrandt, mariage de genre et de style, de San Antonio à Tchekhov, en passant par les styles Corneille et voyage gastronomique, Serge Joncourt.
Le vrai secret de la recette du car Macron. Pour cela, vous prenez 58 pigeons bien sanglés. Vous les enfournez par paire dans une étuve à 42 degrés et vous laissez suer le tout pendant 7 heures tout en les mouillant régulièrement d'un bon jus de canette à 5 euros.
Au revoir, passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture.
Quoi, quoi ?